voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Philippe Descola. Je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'ai fait de ma curiosité pour le monde un métier. Je suis devenu un badaud professionnel, si je puis dire.
Cinquième épisode, recomposer le monde. Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir Caroline Brouet.
Alors après nous avoir parlé de votre vocation anthropologique, en tous les cas d'être remonté aux sources de cette vocation, de nous avoir raconté votre expérience de terrain chez les Achuars d'Amazonie, de nous avoir parlé des grands livres qui ont vraiment fait date, par de la nature et culture, ou les formes du visible en 2021 pour celui-là, le 2005 pour le premier. J'aimerais ce soir que vous nous disiez si derrière votre démarche de scientifique, d'anthropologue, il y a une perspective politique pour vous. On a parlé depuis quelques années de ce tournant éco-politique de la pensée, et vous en seriez, en tous les cas, un des maîtres. Pour commencer, j'aimerais vous demander si vous êtes parti il y a 50 ans trotskiste, comme vous nous l'aviez raconté précédemment. Donc, parti trotskiste il y a 50 ans, vous êtes revenu écologiste. Au départ, c'était pas la même chose. Les trotskistes, c'était pas spécialement des écolos.
Non, en effet, l'une des choses qui m'avait beaucoup troublé dans ma période de jeunesse militante, c'était l'indifférence à la question écologique dont on parlait déjà. Il y avait déjà des textes de Gorce, par exemple, d'André Gorce que je lisais et qui est... Mes camarades étaient complètement indifférents à ces questions. C'était avant qu'on se rende compte de la catastrophe climatique qui allait nous débouler dessus. Mais pourtant, les mauvaises pratiques étaient déjà évidentes, non seulement dans la pollution, mais dans l'usage des terres, des choses comme ça. Et mon intérêt pour la façon dont une population autochtone interagissait avec son environnement, avec dans un milieu très spécifique, était en partie lié à ces préoccupations que j'avais déjà à l'époque. Et donc je suis revenu écologiste, oui, d'une certaine façon, comment dire. J'ai commencé à me rendre compte que le problème n'était pas simplement celui que j'avais observé en Amazonie, c'est-à-dire la spoliation des terres. C'est des choses qui m'ont beaucoup occupé, des terres autochtones, la destruction de la forêt amazonienne. C'est une forêt qui est en partie anthropique, c'est-à-dire elle est en partie le produit de l'action humaine, donc ce n'est pas une forêt vierge, c'est un paysage au fond qui a été construit au fil des décennies, des siècles et des millénaires par des populations autochtones. La destruction de cela, c'est non seulement la destruction des moyens de vie de populations autochtones, mais c'est aussi la destruction de processus évolutifs, de coévolution entre humains et non-humains d'une très grande complexité. Donc j'étais très conscient de toutes ces choses-là et très mobilisé dans les luttes contre la destruction des milieux façonnés par les populations autochtones. Et c'est à ce moment-là que j'ai peu ou prou rencontré, au bout de quelques années, la question climatique qui très tôt m'est apparue comme étant la grande menace pour l'humanité et dont il a fallu beaucoup de temps pour que nos contemporains prennent conscience. Et donc cette prise de conscience... C'est combiné avec cette impression que j'évoquais aussi lors d'une de nos précédentes conversations, la réaction de révolte et d'injustice qui anime les anthropologues lorsque, ayant passé plusieurs années dans des sociétés, comme c'était mon cas, égalitaires, dans lesquelles les choses ne sont pas des marchandises, mais simplement des moyens d'établir des relations entre des gens, sont des ponts, ce sont des signes que l'on échange, et non pas une façon de faire de l'argent. Lorsque l'on revient, évidemment, on est complètement saisi par le caractère injuste et terriblement terre-à-terre matérialiste de la civilisation vers laquelle on revient. C'était une chose que l'on mesurait auparavant, et c'est pour ça que j'avais des opinions politiques à gauche, mais entre en avoir une conscience fondée sur des lectures et puis expérimenter des situations d'injustice auxquelles on est confronté et d'inégalités en Europe, en les regardant à travers le regard de la population qu'on vient de quitter, ces choses-là deviennent beaucoup plus brutales, beaucoup plus évidentes. Et donc, inévitablement, effectivement, je me suis trouvé confronté à la nécessité de faire part à la fois de mon indignation et surtout de la possibilité de développer des mondes alternatifs à celui qui nous est familier, c'est-à-dire au fond tout simplement comment sortir du capitalisme qui a produit cette dévastation du monde, y compris, et c'est surtout, c'est pour un anthropologue, c'est quelque chose de très puissant, dans des régions du monde dont les populations n'en sont pas responsables. C'est pas les Atchouars qui sont responsables du réchauffement climatique. Et la plupart des populations qui sont affectés, qui vont être de plus en plus affectés par le réchauffement climatique, sont des populations qui, effectivement, tout en transformant leur milieu, comme je l'ai dit à propos de l'Amazonie, ne l'ont pas fait de telle façon que les conséquences en soient tragiques.
Quand vous allez, Philippe Descola, par exemple, auprès des activistes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme on vous voit le faire dans un film d'Elisa Lévy, « Composer les mondes », est-ce que vous y allez avec les yeux de l'anthropologue que vous êtes, en vous disant que cette expérience peut vous nourrir autrement, ou que votre expérience à vous de terrain peut nourrir les expériences de la ZAD, ou est-ce que vous y allez comme un citoyen engagé, écologiste ou autre d'ailleurs, mais comme un citoyen engagé, avec une démarche politique
qui est... Oui, j'y vais comme un citoyen engagé, bien sûr. Mais je ne peux pas me départir de mon regard anthropologique, et donc ce qui me frappe en particulier dans des expériences tout à fait originales comme les ZAD, et en particulier celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est le fait que en très peu de temps, des gens qui venaient d'horizons très divers ont su nouer un lien tout à fait singulier avec un milieu qui est le bocage du nord du pays nantais, et rejoindre par là, sans doute en grande partie à leur insu, des attitudes de population que j'avais pu observer ou dont j'étais familier comme anthropologue, à savoir le fait que l'identification à un milieu vous donne des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de ce milieu. Et de ce point de vue-là, la formule classique de Notre-Dame-des-Landes, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, même si je n'aurais pas choisi le terme nature.
Attendez, vous avez fait des cours au Collège de France sur l'anthropologie de la nature, alors oui. C'est une provocation ou une forme d'ironie, mais vous l'avez fait vous-même.
Mais parce que je trouvais là quelque chose de tout à fait caractéristique d'une attitude dans laquelle, au fond, des humains se deviennent des porte-parole d'un milieu de non-humains vis-à-vis duquel ils ont une responsabilité, et parce qu'ils peuvent agir publiquement et vis-à-vis des institutions existantes, ils exercent cette responsabilité. Ce qui me semble extrêmement dangereux de ne pas le faire, au contraire, et c'est-à-dire de laisser les choses se développer sans intervenir, ou en intervenant d'une façon qu'on pourrait appeler techno-solutionniste, c'est-à-dire en trouvant des palliatifs qui ne résolvent rien. Ce qui est aussi fascinant à Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet alternatif de vie collective, ancré dans un territoire, fondé sur le partage et à la fois du travail et des fruits du travail, en essayant d'éliminer la propriété privée, en entretenant, au fond, dans les liens entre les personnes, des rapports d'intimité et de joyeuse, qui me rappellent aussi assez souvent des populations autochtones.
Vous n'avez pas envie d'y aller ?
Vous voulez
vous installer ?
Y vivre ? Alors, moi, je suis un intellectuel, c'est-à-dire que je vis environné de livres, et je pense que mon camarade Alessandro Pignocchi, avec qui nous avons publié un livre il y a pas longtemps, lui...
Ethnographie des mondes à venir, voilà. Au seuil en 2022.
Et lui passe beaucoup de temps, Et il me dit à quel point ça rend sa vie beaucoup plus facile à vivre, au fond. Moi, je suis plutôt attaché à ma bibliothèque. Et j'y suis allé à plusieurs reprises, mais je n'envisage pas d'y vivre.
Philippe Descola, on n'a pas encore cessé de penser que nous sommes maîtres et possesseurs de la nature. L'expérience de la ZAD est une expérience, mais vous parlez de prise de conscience. Est-ce que, peut-être même dans les mots qu'on utilise, on ne voit pas cette prise de conscience agir? Autrement dit, on parle encore beaucoup de la nature, certes, mais on parle aussi beaucoup, de plus en plus, vous vous dites milieu, on parle beaucoup de plus en plus du vivant, le vivant. Est-ce que ça, c'est un progrès pour vous?
Alors, c'est sans doute un progrès. Cela dit, je pense que l'attention au non-humain, c'est sans doute une attention au vivant, mais pas qu'au vivant. C'est-à-dire que je préfère parler de milieux de vie, c'est-à-dire d'endroits qui sont caractérisés aussi par des formations géologiques qui rendent possible la vie. C'est-à-dire
un lac, une forêt, une ville, sont des milieux de vie.
C'est des milieux de vie, absolument. Et c'est pour ça que je suis très intéressé par ce mouvement qui commence à se développer et qui consiste à attribuer une personnalité juridique à des milieux de vie. On en a même discuté en France avec le Parlement de Loire. Et bien sûr, on a des exemples qui viennent à l'esprit, comme celui de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, du Rio Atrato en Colombie, en Europe, il y a le Mar Menor en Espagne, ou la Magpie au Québec, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des milieux de vie pour lesquels des autochtones ont lutté afin d'obtenir précisément une capacité de représentation de ces milieux de vie de façon à ce qu'ils puissent agir en justice.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les choses un peu plus précisément?
Oui, alors par exemple, on va prendre la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, c'est une petite rivière sur les rives de laquelle vivent des populations maoris qui ont obtenu du Parlement néo-zélandais la personnalité juridique. Ça veut dire que la rivière peut aller en justice pour faire valoir ses droits, et notamment le droit à vivre sans être attaquée, sans être détruite, sans être polluée, etc.
Ce sont des humains, bien sûr, qui
et
vont représenter la
rivière. Ce sont des humains qui vont
rivière.
Les représenter. Alors la grande difficulté, c'est de trouver le bon système pour définir ce qu'on appelle en général les gardiens, c'est-à-dire les personnes qui vont parler au nom du milieu de vie. Ce que je trouve intéressant dans ce processus, c'est qu'il inverse le principe d'appropriation qui va généralement depuis les humains individuels ou collectifs vers les non-humains, vers transformés en ressources. C'est un processus qui n'a cessé de prendre l'ampleur avec la privatisation des biens communs qui s'est développée au cours des derniers siècles, notamment en commençant avec le mouvement des enclosures au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'appropriation par des grands propriétaires terriens de forêts ou de pâtures au détriment des populations locales qui se servaient de ces lieux comme de ressources communes. Et c'est un mécanisme qu'on voit à l'œuvre partout pour un très grand nombre de ressources, ou en tout cas pour un très grand nombre de parties de milieux de vie qu'on va décréter comme étant des ressources. C'est le cas de façon exemplaire en France à l'heure actuelle avec l'eau, par exemple, et un peu partout dans le monde, du fait du réchauffement climatique et de la raréfaction de l'eau, c'est les tentatives d'accaparement de ce bien précieux, mais qui est un bien commun, par des individus ou par des groupes minoritaires, ne cessent de se développer. Ce qui est intéressant dans le cas de la personnalité juridique des milieux de vie, c'est que si on considère que le milieu de vie est propriétaire de lui-même, à ce moment-là, cela peut provoquer des conflits d'appropriation, c'est-à-dire que lorsque des humains cherchent à s'emparer d'un milieu de vie, par exemple de l'eau dans l'ouest de la France, eh bien, à ce moment-là, le milieu de vie peut être fondé à réclamer en justice la propriété de lui-même contre ceux qui vont l'accaparer. Et donc ça change complètement le rapport à la propriété qui était stabilisé depuis très longtemps en Europe, et notamment cette grande division entre les choses et les personnes qui sont caractéristiques du droit européen et du droit mondial maintenant.
Même si les entreprises sont déjà, un statut juridique.
Elles ont un statut juridique. Oui, les syndicats aussi. Il y a des personnalités juridiques, d'entités non individualisées comme des humains. Et donc, j'observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans ce mouvement, parce que il me semble qu'il peut amener à revoir complètement notre rapport d'appropriation à la nature, disons.
Oui, c'est ça, parce qu'en même temps, passer par le droit, donc créer un horizon juridique universel, impliquerait un changement de mentalité à l'égard de ces milieux de vie. Donc, ça supposerait, on peut le dire comme ça, une véritable révolution culturelle.
Oui, tout à fait.
Et c'est celle-ci qui nous manque, vous diriez, aujourd'hui, Philippe Descola?
C'est celle-ci qu'il faut mettre en œuvre. Elle nous manque, bien sûr, il est impératif de le faire. Alors, le rapport entre ce qui se passe dans les ZAD et ce qui se passe dans les luttes autochtones ne cesse de m'interpeller, parce qu'on voit des parallèles qui sont très intéressants. Je vais prendre un exemple. Dans les Andes, il y a quelques années, une grande compagnie internationale a demandé et obtenu l'autorisation d'exploitation minière dans les montagnes de la chaîne de la Ausangate derrière Cusco. Et l'exploitation minière, il faut le savoir, dans cette région, comme dans d'autres d'ailleurs, n'est pas du tout analogue à celle qui est très anciennement pratiquée dans les Andes, où on fait des tunnels, où on va négocier avec les esprits de la terre pour pouvoir retirer du cuivre ou de l'or. En l'occurrence, on décape. On détruit complètement un bassin versant, une montagne, etc. Donc c'est une destruction même, non pas simplement d'une ressource. Bien sûr, les populations locales protestent contre la pollution, contre la destruction de la ressource, la pollution des rivières, etc. Mais c'est un membre du collectif qui est attaqué. Autrement dit, lorsque l'on va détruire une montagne, on va détruire un membre du collectif qui est, comme tous les autres membres humains et non humains du collectif, quelqu'un qui a des droits, des devoirs, des responsabilités, et qui peut en plus se venger et donc provoquer des catastrophes. Et beaucoup des manifestations qui sont menées, des protestations par des populations autochtones dans les Andes contre l'exploitation minière, sont de cette nature-là, c'est-à-dire les populations locales se présentent comme étant les porte-parole d'un membre du collectif attaqué. Et d'une certaine façon, je pense que, par exemple, les habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont exactement dans cette situation. C'est-à-dire, ils sont les porte-parole des tritons, des espaces, des zones humides, des haies, etc., de tous ces endroits qui étaient menacés par le projet d'aéroport et qui continuent à être menacés maintenant que le projet d'aéroport a été annulé par l'exploitation intensive et agro-industrielle des campagnes en France et en Europe.
Philippe Descola, il y a les actions et les lieux, actions transformatrices, pour vous, porteuses d'espoir. Et puis, il y a la recherche. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, parfois, me direz-vous. Vous avez inspiré de nombreuses vocations. Alors, notamment avec votre livre « Les lances du crépuscule », dont on a déjà parlé, notamment parce qu'il est construit comme un roman. Il commence par un assassinat qu'on comprend à la fin du livre. Et vous l'avez construit à la fois comme un journal et comme un polar, quoi. Vous avez cité Alessandro Pignocchi. Alessandro Pignocchi est un ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie qui s'est lancé dans la bande dessinée et qui s'est inspiré de vos travaux pour écrire ses livres, par exemple Anent, Nouvelles des Indiens Jivaros, ou Le Petit Traité d'écologie sauvage en 3 tomes, ou donc ce livre que vous avez fait ensemble, Ethnographie des mondes à venir. Il y a des jeunes chercheurs et chercheuses dont vous avez dirigé la thèse, par exemple Natacia Martin, qui a écrit notamment un livre qui a remporté un très très grand succès public et critique d'ailleurs, qui était Croire aux fauves. Vous avez inspiré des philosophes, vous avez inspiré des anthropologues, on peut citer Baptiste Morisot, on peut citer Charles Stepanov ou encore Pierre Charbonnier. Comment voyez-vous cette émulation, cette fois, c'est cette émulation au sens vraiment de reprise en main d'une certaine jeunesse aujourd'hui dans la recherche? Est-ce que vous les encouragez? Est-ce qu'ils... Comment se passe cette relation avec eux?
Alors, c'est des relations classiques dans le monde de la recherche entre des chercheurs plus âgés et puis des jeunes chercheurs qui cherchent leur voie et qu'on essaye de guider dans leur voie. Je me sens pas du tout comme un gourou, mais par ailleurs...
J'ai pas dit ça quand même, hein.
Non, mais je suis particulièrement satisfait du fait que lorsque j'ai commencé à enseigner à l'école des hautes études en sciences sociales en 84, un séminaire qui s'appelait « Problèmes d'anthropologie de la nature » et où il y avait 3 personnes à la première séance, et où j'étais un peu désespéré à l'idée que les idées que je développais rencontraient peu d'écho, j'étais assez content de voir qu'au fil des années, finalement, ces idées ont pris corps et se sont transmises, pas simplement en France d'ailleurs, mais aussi dans d'autres pays dans le monde où je suis lu, et ont abouti à la mobilisation intellectuelle, en tout cas, d'un très grand nombre de jeunes chercheurs dont je lis et discute les travaux avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme.
C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec votre ami Bruno Latour.
Exactement. Lui aussi était au début regardé avec curiosité, suspicion et incompréhension, et a fini par devenir un penseur absolument planétaire que tout le monde lit et discute et dont on s'inspire évidemment.
Il y a quand même des résistances encore, hein. Je ne cite qu'un exemple, puisqu'il est aussi relativement récent, il date du début des années 2020, disons, Régis Debray dans son Siècle Vert, qui craint qu'on tombe dans un catéchisme écologique avec son culte de la nature. Alors ça ne vous êtes pas menacé par le culte de la nature, mais un culte de la nature, dit-il, mené par des animistes illuminés.
Oui, je sais, on a eu l'occasion d'en discuter quelquefois. J'ai beaucoup de respect pour Régis Debray, notamment pour sa trajectoire politique. Il fallait quand même beaucoup de foi, de culot et de courage pour se lancer dans une guérilla fauquiste comme il l'a fait. Mais il a, je pense, d'une certaine façon, renoncé à ce projet politique qui était le sien dans sa jeunesse par... Alors, je vais pas faire de psychologie, donc je vais m'abstenir de tout jugement.
En tous les cas, il y a renoncé.
En tout cas, il y a renoncé. Et donc, il est maintenant dans une position d'attentisme qui, je trouve, un peu triste par rapport à l'exaltation qui avait pu caractériser les premiers pas de sa démarche.
Donc l'exaltation, vous allez peut-être la chercher plutôt du côté des jeunes, en tous les cas des jeunes chercheurs, mais pas seulement des jeunes chercheurs, puisque vous avez fait aussi la conférence inaugurale de rentrée de Sciences Po en 2022. Qu'est-ce que vous avez pensé des questions des jeunes que vous aviez en face de vous? Est-ce qu'il y a des controverses, par exemple, je ne sais pas, sur le concept de nature, sur le fait de sortir de l'alternative exploitation-protection ou sur bien d'autres choses? Comment vous les avez trouvées?
Alors moi, j'étais surpris parce que je suis parti là-bas en missionnaire, justement. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas un gourou, mais à être invité à faire la conférence inaugurale de la recherche aux étudiants Sciences Po, c'est bien parce que ça permet de faire passer des idées. Et donc, je me disais qu'il fallait les convaincre de ne pas, au fond, se plier aux habitudes acquises et aux codes de l'institution au sein de laquelle ils étudiaient. Et en fait, j'ai trouvé des jeunes gens, des jeunes filles extrêmement convaincues déjà. Et c'est pas que je prêchais dans le désert, c'est que je prêchais déjà des gens convaincus. Et donc, j'en ai été très, très satisfait. On voit ce mouvement d'ailleurs se répandre dans les grandes écoles, notamment à l'agro en particulier, qui pendant longtemps a été un temple de l'enseignement Bon, j'ai fait des conférences aussi, jadis, au fond des techniques agro-industrielles, et c'est tout à fait intéressant de voir des étudiants se déprendre de ce moule pour essayer de faire autre chose. Et ça, c'est un mouvement qui est irrésistible, je crois.
Si vous étiez un jeune chercheur aujourd'hui, vous iriez où ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore partir comme vous le faisiez il y a 45 ans ?
J'ai des étudiants qui sont sur le terrain ou qui reviennent en ce moment du terrain un peu partout. Les conditions évidemment changent parce que les conditions historiques se transforment, bien sûr. Mais bien sûr, je dois dire que je pense que je ferai toujours de l'anthropologie. Oui, c'est la reine des sciences.
Il n'y a pas un terrain qui vous...
Oh, il y a de multiples.
Vous intéresserait plus qu'un autre encore aujourd'hui. Vous allez vous retourner voir les Atchoirs, hein.
Oui, j'y étais il n'y a pas longtemps. Oui, bien sûr. Tous les terrains sont intéressants. C'est la façon de les aborder qui compte.
Tous les terrains, dites-vous, Philippe Descola, sont intéressants. En tous les cas, un grand nombre de terrains sont intéressants, y compris celui où nous sommes précisément aujourd'hui, c'est-à-dire chez vous, dans votre maison, au Vésiné, où vous nous accueillez. Je suis assise en face d'un cerisier en fleurs, un petit bout de jardin devant nous. Je crois apercevoir une toute petite poussette de poupée, ce qui m'incite à penser qu'il y a des petits-enfants. Est-ce que, par exemple, dans ce jardin, vous pratiquez la leçon de choses que pratiquait votre grand-père avec vous quand vous étiez enfant? C'est-à-dire, est-ce que l'éducation au vivant, là je parle de ce petit terrain, mais peut-être qu'on pourrait l'élargir, la leçon de choses à l'école, c'est aussi un terrain important, il faut commencer par les tout petits.
Je crois que c'est très important en effet. Moi je commence mes journées, j'ai l'avantage d'avoir un petit bureau au fond du jardin avec un pommier devant, et l'une des premières choses que je vois le matin, c'est le rouge-gorge qui vient me saluer. En échange, j'allais dire quelques mots, en tout cas je lui dis quelques mots, il chante en réponse, et j'ai le sentiment de m'être reconnecté au monde de cette façon-là. Et les petits-enfants aussi, bien sûr, je veux dire des banalités, mais l'expérience de voir croître dans leur connaissance et leur curiosité vis-à-vis du monde des enfants est une des plus belles choses qui soit. Et je pense que, en effet, vous parliez de leçons de choses tout à l'heure, c'est des choses qui manquent maintenant. Il y a des professeurs qui, fort heureusement, n'ont pas abandonné cette mission d'éveiller les enfants à la diversité de ce qui les environne. Mais ça disparaît progressivement. On le voit dans la connaissance, tout simplement. Un jeune urbain en Europe, et c'est encore pire en Amérique du Nord, n'est plus capable d'identifier les arbres, par exemple, qui poussent...
Ou les légumes.
Et donc, on le voit dans la perte de... Il y a des travaux scientifiques là-dessus, dans la perte de la terminologie pour désigner le vivant.
Donc, remettre la leçon de choses à l'école, ce serait un
de
vos vœux ?
C'est tout à fait fondamental, oui, parce que apprécier le vivant, ça veut dire d'abord le connaître. Et le connaître, ça se fait avec des médiations. Il faut savoir nommer les choses, savoir comment ces choses-là vivent, comment une fleur se reproduit, etc., etc. C'est des choses absolument centrales.
Merci, Philippe Descola.
Merci, Caroline Brouet.
De nous avoir accueillis chez vous. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Michael Simon, réalisation Rafik Zénine. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.